On est dans le prolongement de ce que l'on a entamé la dernière fois. On avait terminé sur un texte d'Augustin, où Augustin montre au fond comment c'est la conscience du danger face à la menace de la mort qui mène à la raison le plus sûrement les hommes. C'est-à-dire que la conscience commune du danger, de la menace de mort, alors chez Augustin qui est liée à la condition du péché originel, cette conscience-là partagée, c'est ce qui est la meilleure garantie d'un accord commun entre les hommes qui permet de créer une possible communauté civile, une communauté terrestre, qui n'est évidemment que le pâle reflet de la communauté divine, de la communauté de la cité de Dieu, la civitas Dei. J'avais tenu à terminer sur ce texte, cette idée d'Augustin qui est simple à comprendre, parce que c'est là qu'on voit particulièrement l'importance d'Augustin pour la suite, et notamment l'avènement de la philosophie politique moderne, avec des figures comme Grotius, mais surtout avec la figure de celui qu'on a commencé à attaquer sabre au clair, Thomas Hobbes. Donc, la dernière fois, j'ai situé Thomas Hobbes, qui est un Anglais du XVIIe. Ce qui est important à retenir, c'est que Thomas Hobbes a été le témoin de la guerre civile anglaise. La guerre civile anglaise qui a duré, selon plusieurs séquences, autour des années 1640-1650. Guerre civile anglaise qui a vu l'affrontement entre différentes factions successives et le tout étant complètement entremêlé, les conflits, les oppositions étant totalement entremêlées, donc entre le pouvoir monarchique anglais et les Écossais revendiquant un affranchissement, une autonomie par rapport au pouvoir monarchique anglais, entre la monarchie, le pouvoir royal et le Parlement, entre les différentes sectes au sens protestant du terme, donc entre les religieux et ceux aspirant à une société régie davantage par des lois qu'on appellerait laïques aujourd'hui, entre les Irlandais et le pouvoir royal. Bref, guerre civile selon différentes lignes de clivage conflictuel qui a été au fond une forme de guerre de tous contre tous. Une guerre où l'autre apparaît comme l'autre quel qu'il soit, qui est désigné comme autre, apparaît comme l'ennemi porteur d'une menace de mort. Thomas Hobbes, donc, a été complètement marqué, je dirais même traumatisé, par cette expérience de la guerre civile, qui était une expérience vécue. Plusieurs fois, il a dû séjourner en France parce qu'il se sentait menacé, d'ailleurs. Heureusement, donc, il a bénéficié de la protection d'une famille extrêmement puissante, je le rappelle parce que on va aborder un texte qui s'adresse à cette famille et à la figure centrale des Lords Cavendish. William Cavendish, mais il y a toute une dynastie de William Cavendish qui étaient successivement les comtes du Devonshire, qui a été une famille puissante qui avait suffisamment de puissance pour assurer une protection réelle pour Thomas Hobbes notamment, même si cette famille a été elle aussi tenue de s'exiler en France pendant une période assez longue au cours de cette guerre civile. Voilà, donc l'expérience de la guerre civile et avec les tueries et les milliers de morts qu'elle a occasionnées, qu'elle a suscitées, c'est peut-être ce qui explique vraiment l'orientation de la philosophie de Thomas Hobbes. Je vais ajouter également, mais ça je le rappelle rapidement, que Thomas Hobbes, et grâce notamment à ses séjours en France, Paris étant déjà à l'époque, jusqu'à la fin du XIXe siècle, ça sera le cas, un peu le foyer de la vie culturelle et intellectuelle de l'Europe. Donc ses séjours à Paris lui ont permis, notamment à travers le père Mersenne, qui était un très proche interlocuteur de Descartes, de connaître vraiment de près et en profondeur toutes les grandes philosophies de son époque, que ce soit Descartes, Pascal, mais aussi Machiavel, antérieurement à lui, Grotius. Voilà, donc il était au cœur du bouillonnement intellectuel, philosophique, culturel du XVIIe siècle. Pour finir sur sa présentation, j'ajouterai ceci. Deux de ses livres principaux, c'est ces deux livres-là, majeurs, je dirais même, hein, on va en lire en commun des extraits. Donc, Le citoyen d'un côté, le sous-titre qui a été mis dans cette traduction française, c'est Les fondements de la politique. C'est un livre qu'il a écrit en latin, et donc qui est traduit du latin. Et en latin, le titre, c'est De Cive, Cive, si vous voulez. Cive, qui est le même mot latin correspondant au grec polis, politikos. Vous voyez, ça a donné politique, politicien. C'est aussi le membre de la cité, donc. C'est un livre qui s'intéresse effectivement à l'organisation de l'être ensemble dans la cité. Et l'autre ouvrage majeur, Léviathan, ou Le Léviathan, ça dépend des éditions, qui lui a été écrit en anglais et qui porte ce titre en anglais. Le Léviathan fait évidemment allusion à la figure de ce monstre marin biblique, mais qui est une figure positive et pas négative, contrairement à l'autre monstre marin qui est vraiment dangereux, qui est le méchant, qui est Behemoth, qui est le monstre des forces du mal, dans la Bible toujours, le Léviathan étant les forces positives. Behemoth qui inspirera aussi un autre livre de Hobbes, qui portera ce titre-là, mais qui est un livre moins important, disons moins central. Alors, le Léviathan, on verra, c'est en fait pour Hobbes une façon de désigner la puissance commune, supérieure aux hommes, à chacun des individus, la puissance supérieure commune, mais qui n'est pas une puissance divine. C'est-à-dire qu'il y a une rupture complète par rapport à un ordre divin de la cité et à la monarchie de droit divin. Cette puissance supérieure qu'est le Léviathan est un artifice, une construction artificielle qui résulte de la volonté partagée des individus. Autrement dit, pour le dire vite, on peut dire que le Léviathan, au bout du compte, c'est l'État au sens moderne du terme, l'État moderne. L'État moderne comme le garant, le seul garant, pour Hobbes, le seul garant de l'être ensemble pacifié entre les individus. Le seul garant d'une cité, le seul garant d'une communauté humaine. Voilà, donc ces deux livres. Une précision, un livre en latin, un livre écrit en anglais. C'est courant à l'époque chez les Italiens, on trouve la même chose. Depuis la fin de la Renaissance, disons surtout depuis le XVIe et le XVIIe, naît ce que les historiens ont pu appeler la modernité. C'est l'avènement des temps modernes. C'est la sortie de la chrétienté médiévale, marquée par la prédominance d'une vision théocentrique du monde et d'une vision, au fond, monarchique du monde. Mais monarchie n'étant pas dissociable de puissance divine et d'un ordre immuable fondé sur ces principes-là. Donc, dans ce contexte-là, qui est, pour le dire très vite, le contexte de la chrétienté comme projet théologico-politique de l'Église de Rome dès le début du Moyen Âge et qui va s'imposer peu à peu au cours des siècles, commencer à triompher avec l'âge roman, mais surtout avec l'âge gothique. C'est donc au XIIe, XIIIe siècle, XIVe, c'est-à-dire la période qui correspond au gothique d'un point de vue architectural, que ce projet théologico-politique de l'Église va triompher. C'est-à-dire que l'Église va atteindre son but d'organiser tout le territoire européen, toute l'Europe, selon les principes du pouvoir romain. Au fond, il y a confusion complète entre le temporel et le spirituel. Et donc, il est clair que sous la chrétienté, il n'est qu'une seule langue intellectuelle, c'est le latin. Il n'est pas concevable d'écrire des textes, quels qu'ils soient d'ailleurs, dans une autre langue que le latin. Et donc, au XVIe, XVIIe, c'est ce mouvement de la modernité qui est un affranchissement de cette chrétienté, et ça va se traduire par une revendication d'avoir recours aux langues vernaculaires, ce qu'on appelle les langues vernaculaires. C'est les langues, au fond, utilisées au quotidien par le peuple. C'est donc la langue qui n'est pas celle des savants. Par exemple, dans les grandes universités, à la Sorbonne, à Salamanque, à Bologne, toutes les grandes universités européennes, on ne parlait qu'en latin. Donc c'était la langue savante. Et les populations, peu à peu, avaient forgé cette langue du peuple, qui va être ce qu'on appelle les langues vernaculaires, d'où l'expression vernaculaire, qui va être les langues modernes, l'italien, le français, l'anglais, l'allemand, etc. Et donc, ce qu'amène la Renaissance, et surtout le XVIIe, dans l'élan de la Renaissance, c'est que les penseurs, ceux qui écrivent, vont peu à peu quitter le latin comme véhicule de pensée pour adopter ces langues vernaculaires, ces langues du peuple, ces langues de la modernité. Et donc, ça se traduit par le fait que la plupart aient des œuvres soit en latin, soit en langue moderne. Et donc, Hobbes, de ce point de vue-là, n'échappe pas à la règle. Et vous voyez que ça a une signification profonde, quoi. C'est pas simplement, tiens, ben, je vais écrire un coup en latin, un coup parce que ça me plaît mieux, un coup en anglais. La signification, c'est ce mouvement d'arrachement progressif au cadre de la société traditionnelle de la chrétienté, au cadre aussi de l'université, parce que l'université est porteuse à l'époque, non pas de modernité, mais de la tradition. Alors, ceci explique qu'un penseur comme Hobbes va être en butte à l'hostilité violente des églises. Des églises aussi bien protestantes anglaises qui sont proches au fond de Rome. Regardez dans le protestantisme, l'église anglicane aujourd'hui, c'est ce qui est la plus proche du pouvoir romain, en fait, du Vatican. Je précise ça parce qu'au fond, le mouvement de la Réforme a par ailleurs, en Allemagne, en Suisse, été porteur de l'abandon du latin et de la revendication de la liturgie dans les langues modernes. Mais en Angleterre, ce n'est pas trop le cas à l'époque, parce que c'est les presbytériens restent très proches au fond du pouvoir romain. Et évidemment, Hobbes va être en butte à l'hostilité très forte de Rome. De Rome qui va condamner d'ailleurs officiellement ses livres. Ses livres comme étant des ouvrages athées, alors que Hobbes est complètement nourri et inspiré par la Bible et les évangiles chrétiens qu'il cite fréquemment. Mais il est considéré par le pouvoir religieux comme athée pour deux raisons majeures, je vais vite. La première raison, c'est celle que je viens d'expliquer, l'abandon du latin et le recours à la langue moderne, l'anglais. Et d'autre part, l'autre raison est de fond, c'est que c'est ce que j'ai expliqué rapidement avant, mais sur lequel on va s'arrêter longuement. Le Léviathan, cette puissance commune, cette puissance publique, comme on dirait en termes contemporains, est affranchi d'un droit divin, est une construction humaine complètement déconnectée de la puissance divine. Cette puissance supérieure, qui est le Léviathan, est une puissance qui ne doit rien au principe divin. Autrement dit, Hobbes est le pionnier, d'une certaine manière, de ce qu'on appellera beaucoup plus tard, c'est-à-dire seulement au début du XXe siècle en France, la séparation de l'Église et de l'État. C'est-à-dire de deux principes qui doivent être séparés et non pas mélangés. C'est dire, entre parenthèses, que Hobbes a impulsé un grand travail dans la pensée de l'être ensemble, de l'organisation de la société en Europe, qui est un travail lent. C'est dire la lenteur des évolutions structurelles d'une société. Il a fallu du XVIIe siècle jusqu'au début du XXe, en tout cas en France, pour que les choses se mettent en place. Alors, en Angleterre, ça a été à la fois plus rapide et aussi plus lent. Plus rapide au sens où, de la guerre civile, donc à la fin du XVIIe siècle, a surgi la monarchie parlementaire ou la monarchie constitutionnelle, qui est le régime politique actuel de l'Angleterre. Alors qu'en France, il a fallu la Révolution française, donc la fin du XVIIIe, puis les différentes secousses du XIXe, avant d'aboutir véritablement à la mise en œuvre de cette séparation de l'Église et de l'État, c'est-à-dire à la distinction entre une puissance supérieure civile, publique, et une puissance supérieure divine. Et en fait, Hobbes, dans son mouvement de penser un être ensemble humain, une cité humaine débarrassée du joug de la puissance divine, Hobbes ne va au fond que laïciser la pensée d'Augustin. Il va la laïciser, mais il y a une continuité très claire. Voilà, donc on va entrer dans cette pensée de Hobbes à travers la lecture partagée d'un certain nombre d'extraits. Le premier extrait étant issu du De Civitate, du citoyen, et publié en 1642, pour situer les choses, alors que les Léviathans paraîtra presque 10 ans plus tard, en 1651. Donc il faut savoir que 1642, pour les historiens, l'année donc où paraît le citoyen, coïncide avec le début de la phase la plus aiguë de la guerre civile anglaise. Alors, on va lire ensemble ce texte. Donc, il se donne, comme vous le voyez, comme une épître dédicatoire, c'est-à-dire une lettre de dédicace, une adresse à quelqu'un à qui il dédicace le livre. Donc, c'est pas comme aujourd'hui des dédicaces de mots au stylo sur la page blanche. Les dédicaces sont préétablies. Un peu plus long, ben, à l'époque, tout le monde ne disposait pas comme ça facilement d'un livre, d'un exemplaire. Donc, il dédicace ce livre à Monseigneur le comte de Devonshire. De qui s'agit-il? Eh bien, précisément de Lord Cavendish, son protecteur. Monseigneur, donc, c'est comme une lettre, hein? C'est pour ça que dans l'édition, c'est en italique. Vous voyez dès le début, le peuple romain. Notez, ça ne peut que vous faire penser directement au texte qu'on a abordé d'Augustin. Augustin a recours aux mêmes exemples et Augustin développe longuement ce qui se passe à Rome, dont il est presque le contemporain, pour étayer sa thèse que la mort et la menace de mort est au centre de la cité. Hobbes fait la même chose. Ce n'est pas un hasard du tout. Il est nourri de ses lectures, notamment d'Augustin. Le peuple romain, peu favorable envers les rois, et à cause de la mémoire du nom des Tarquins et par les lois de la République. Alors, les Tarquins, c'était une dynastie étrusque qui, avant la République romaine, a dominé Rome. Et vous savez, il y a le fameux épisode du viol de Lucrèce, qui était une grande dame romaine, par le fils d'un des Tarquins. Et c'est ce qui va provoquer d'ailleurs une révolte de la population de Rome et mettre fin à la monarchie de Rome et permettre l'avènement de la République romaine. Donc les Tarquins, c'est cette dynastie juste antérieure à la République. Donc, et à cause de la mémoire du nom des Tarquins et par les lois de la République, disait autrefois par la bouche de Caton le censeur. Alors Caton le censeur, il ne faut pas entendre censeur en latin comme celui qui pratique la censure. C'est une fonction. Caton le censeur est aussi plus connu d'ailleurs sous le nom de Caton l'Ancien. C'est une grande figure de Rome qui est à la fois un homme politique, un philosophe, écrivain. Voilà. Pour vous le situer, c'est 2 siècles avant notre ère. Donc il s'appuie sur Caton l'Ancien que tous les monarques étaient de la nature de ces animaux qui ne vivent que de rapines. La phrase est un peu plus claire dans la condamnation. Donc vous voyez quand même, une remarque au passage contre toutes les thèses qui ont expédié Hobbes du côté de la dictature, voyez comme Hobbes, et on le retrouve partout, mais au fondement de sa pensée, un constat selon quoi les rois, les puissants, sont des salopards. Il met au cœur de sa pensée ce point de départ. Quand même. Donc, on ne peut plus clair. Tous les monarques étaient de la nature de ces animaux qui ne vivent que de rapines. On ne peut pas être plus clair que ça. Comme si ce même peuple qui a pillé presque tout le monde, donc les Romains, alors ils ne sauvent pas le peuple. Le peuple à l'état naturel, on reviendra sur ce que ça veut dire plus tard, c'est aussi un animal qui vit de rapines. Donc, comme si ce même peuple qui a pillé presque tout le monde, par ses Africains, ses Asiatiques, ses Macédoniques, ses Achaïques, donc tout ça, c'est des peuples, des peuplades, qui faisaient partie de l'Empire romain. Donc les Africains, vous savez que l'Empire romain allait sur tout le nord de l'Afrique, l'actuel Maghreb en particulier, donc ça, c'est les Africains. Les Macédoniques et les Achaïques, c'est des parties de la Grèce actuelle. Les Asiatiques, c'est la partie Est, Moyen-Orient, de Rome. Et par ces autres citoyens renommés, à cause des dépouilles qu'ils ont emportées de différentes nations, n'était pas une bête plus formidable. Encore, sous-entendu. Donc, les monarques, les puissants, les roitelets, les tyrans, c'est vraiment de l'engeance sale, constitue une menace pour tout un chacun. Mais le peuple, à l'état de nature, ce n'est pas mieux. C'est une bête encore plus formidable. De sorte que Pontius Telesenus n'avait pas moins de raison, donc je préciserai juste après, lorsque dans le combat qui se fit à la porte colline contre Sylla, il s'écria, passant au travers des rangs de ses soldats, qu'il fallait démolir la ville de Rome, parce qu'on trouverait toujours les loups ravissants qui envahiraient la liberté de l'Italie. J'arrête là. Donc Pontius, c'est un des leaders de la révolte des Romains contre Sylla. Sylla, c'est un des hommes d'État romain. Il y a une espèce de guerre civile à ce moment-là à Rome qui oppose les partisans de Sylla. Sylla, donc, c'est le parti des optimates. Optimates, c'est en gros le parti des, comme le nom le suggère, des aristocrates, de l'aristocratie romaine, des propriétaires. Et donc, ce fut un tyran excessif qui, au fond, n'a pas cessé de pomper, de sucer le sang du peuple pour permettre à sa caste des aristocrates romains de s'enrichir toujours plus. Donc, révolte contre Sylla, contre ces aristocrates, et qui est menée par ceux qui ont été appelés par opposition aux optimates, les populares. Populares, qu'on traduit tout simplement par les populaires, ceux qui prennent le parti du peuple, dont un des chefs est Marius et Pontius Célésinus. Mais donc, ce leader de la révolte contre les puissants de Rome, contre Sylla, ne se font pas d'illusions sur le fait qu'il faudrait carrément démolir Rome parce que Rome est peuplée de loups, si l'on abattait la forêt où ils avaient coutume de se retirer. Ça, c'est une image, évidemment. Les loups sont dans la forêt. Vous savez, juste une parenthèse, l'étymologie est souvent intéressante. Le mot « forêt » vient du latin « force », ce qui explique que « forêt », c'est un « e » tréma qui sous-entend « forest », « forestier ». Et le « s » de « forest », c'est le « s » de « force », le mot latin « force », « f-o-r-s ». Et « force » en latin, ça veut dire « en dehors de », ce qui est « dehors ». Et en fait, tout l'imaginaire, jusque, on peut dire, au XXe siècle, écologiste, tout l'imaginaire de l'Europe, et qu'on retrouve dès les Romains, c'est l'opposition entre la ville, la cité urbaine, qui est le lieu possible de la paix, qui est démenté là, en l'occurrence, par opposition à la menace du dehors. Il y a vraiment une opposition entre le dedans et le dehors. Le dehors qui est le sauvage, la forêt. Et la forêt, peuplée évidemment de loups, de bandits et de grands chemins, de hordes de barbares. Ce clivage, cette opposition entre le dedans et le dehors, qui recouvre le clivage civilisation, civitas, barbarie, sauvagerie, le dehors, va être au centre des mentalités jusqu'au XXe siècle. C'est très récemment que d'ailleurs c'est inversé dans les discours, c'est au XXe siècle, les discours sur la sécurité. Ce n'est pas hors propos parce qu'on verra que la sécurité est aussi au centre. Le fait que la ville était synonyme de sécurité ou de possible sécurité, alors que les campagnes, et en particulier la forêt, étaient synonymes de tous les dangers, de menaces, les mauvaises rencontres, les bêtes sauvages, les gens sans foi ni loi qui avaient été mis au ban de la cité, la banlieue. Cette opposition, elle vaut jusqu'au XXe siècle. Et vous noterez que depuis quelques décennies seulement, ça s'est inversé. Ça s'est inversé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la ville est synonyme d'insécurité, de délinquance, de menace, alors que la campagne apparaît comme le lieu de la tranquillité, de la paix, etc. Ça s'est totalement inversé, et c'est très intéressant de le constater, parce que probablement, un des signes, un des symptômes de l'essoufflement de la pensée de la cité, telle qu'elle s'est forgée depuis l'Antiquité et la modernité, à travers des gens comme Hobbes, etc. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les pensées de la cité, de Platon à Aristote, puis les chrétiens, Augustin, etc., et les modernes, Hobbes, Grotius, Rousseau, etc. Toute cette pensée de la cité est probablement aujourd'hui à un point d'épuisement. C'est-à-dire, pour le dire de façon très triviale, il y a une prise de conscience aujourd'hui selon quoi ça ne marche plus. C'est épuisé, ça ne marche plus. Et probablement que cette inversion de l'opposition ville-campagne dessine ville-campagne, ville-forêt, dedans-dehors, qui est qu'aujourd'hui, c'est le dedans qui apparaît comme une menace et le dehors de la campagne qui apparaît comme l'écart. Alors on parle des hameaux vraiment ruraux comme des écarts, le mot est significatif, qui est dans les écarts, dans le dehors, comme étant ce qui est très harmonieux, très pacifié. Voilà, c'est intéressant, ce constat sociologique, un constat d'évolution des mentalités. On pourrait dire qu'il y a en soi une écologie, une possible écologie, elle existe, même si elle n'est pas trop développée, urbaine, une écologie urbaine. Je poursuis. Et certainement, il est également vrai et qu'un homme est un dieu à un autre homme et qu'un homme est aussi un loup à un autre homme. Alors, c'est essentiellement pour ça que j'ai choisi cette dédicace qui en fait pose les prémices de ce qui sera développé plus clairement dans le Léviathan. Mais ça m'intéressait de lire ensemble cette dédicace parce que, d'une part, c'est les prémices de la pensée de Hobbes, mais surtout parce que c'est là que l'on trouve la phrase hyper célèbre de Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. Là, c'est une certaine traduction, mais en fait, c'est homo homini lupus. Le est est sous-entendu. En latin, souvent, le est, qui n'est qu'un lien, est sous-entendu, n'est pas dit. Donc, ça veut dire l'homme est un loup pour l'homme. Donc là, qui est traduit, un homme est aussi un loup à un autre homme. Je crois qu'il y a deux régimes de recours au motif de la bête dans Hobbes. Il y a la bête comme surpuissance, qui est le Léviathan, mais qui peut être Behemoth. Mais là, là précisément, c'est un autre registre d'usage du motif de la bête. C'est la bête là, c'est l'état de nature de l'homme, c'est l'état sauvage. Là, ce n'est pas une surpuissance, encore moins une transcendance. C'est vraiment l'état de sauvagerie dans lequel est l'humain dans l'état de nature. C'est-à-dire que l'homme est un loup pour l'homme, c'est clairement développé, on va le voir après, mais là, c'est suggéré simplement. L'homme est un loup pour l'homme, ça veut dire l'état de nature, c'est l'état avant la construction de la société, avant le Léviathan. On est dans des sociétés sauvages qui ne sont pour Hobbes pas des sociétés, qui sont un état collectif préhistorique, j'allais dire presque, avant la construction de la puissance commune, pré-sociale. C'est ça précisément qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'il considère que Rome, c'est tous, sauf une société digne de ce nom, quoi, sauf une société vraiment construite selon la raison. Mais en clair, là, Rome, comme exemple, c'est pour illustrer ce qu'est l'état humain avant la construction d'une société telle que l'entend Hobbes, édifiée sur une puissance commune, une puissance collective. L'un dans la comparaison des citoyens les uns avec les autres, d'accord ? L'autre dans la considération des républiques. Là, par le moyen de la justice et de la charité, qui sont les vertus de la paix, on s'approche de la ressemblance de Dieu. Et ici, les désordres des méchants contraignent ceux-mêmes qui sont les meilleurs de recourir par le droit d'une légitime défense à la force et à la tromperie, qui sont les vertus de la guerre, c'est-à-dire à la rapacité des bêtes farouches, laquelle, quoique les hommes, par une coutume qui est née avec eux, se l'imputent mutuellement à outrage, se représentant leurs actions dans la personne des autres, ainsi que dans un miroir où les choses qui sont à la main gauche paraissent à la droite et celles qui sont à la droite, à la gauche, n'est pas toutefois condamnée comme un vice par ce droit naturel qui dérive de la nécessité de sa propre conservation. C'est d'une richesse incroyable. Puis alors, ça résonne aussi étonnamment de nos jours. Donc, vous voyez, et c'est là que les accusations selon lesquelles Hobbes serait un athée, etc., ne sont pas du tout fondées. C'est-à-dire que là, on peut lire directement Augustin et la cité des dieux. C'est-à-dire qu'en gros, il y a cette double dimension. L'homme terrestre et la cité terrestre est gouvernée par la loi de la jungle. L'homme est un loup pour l'homme. Mais, l'homme étant une créature divine, il garde quelque chose de ce reflet divin, d'une ressemblance avec le divin. C'est ce qui est expliqué par l'idée que l'homme peut être un dieu pour l'homme. Et que s'il y a la justice et la charité qui gouvernent, il y a un reflet du divin. Ce qui est la question, directement, c'est quasiment la même chose, c'est une tradition augustinienne, des deux cités qui sont dans un effet de miroir. La cité de Dieu, céleste, et la cité terrestre. L'une étant dans l'ombre du mal, l'autre étant dans la lumière du bien, mais il y a quand même une projection, une circulation de l'un à l'autre. C'est à la fois séparé, mais il y a évidemment un rapport entre les deux. C'est ni plus ni moins ce qu'il évoque là, et cette double figure du loup et de l'homme, pas ange, mi-dieu, mi-bête, mi-ange, mi-bête. Ça, c'est le premier point donc à souligner de ce passage. Un autre point qui est important dans ce passage, c'est le droit de légitime défense. C'est « n'est pas toutefois condamné, la dernière phrase lue, comme un vice par ce droit naturel qui dérive de la nécessité de sa propre conservation. » Donc là apparaît le premier ressort central de l'édifice hobbésien, qu'on va voir explicité beaucoup plus en profondeur dans le Léviathan, mais c'est intéressant de le voir à l'état naissant. Hobbes, qui bien sûr condamne l'état de nature comme étant un état gouverné par la menace de mort permanente, par le fait que l'autre est toujours le tueur de soi-même en puissance. Hobbes, évidemment, fait ce constat comme étant un constat très négatif qu'il faut tenter de dépasser. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne trouve pas légitime le désir des individus dans cet état-là de nature de se protéger de la menace de l'autre, et y compris jusqu'à tuer l'autre, y compris jusqu'à être un loup pour l'autre, c'est-à-dire le tuer pour se protéger. C'est-à-dire que Hobbes, tout son édifice repose sur le fait qu'est au centre l'instinct de conservation, ce que Rousseau appelait l'instinct de soi, c'est-à-dire l'instinct, le désir de persévérer dans son être, c'est-à-dire le désir de se garantir le futur, son propre futur, le désir que demain on soit encore vivant, qu'on survive à aujourd'hui. Et donc, le désir de survivre à aujourd'hui, c'est se protéger de la menace de l'autre, l'autre étant considéré comme celui qui hypothèque son futur, qui hypothèque son avenir en étant porteur de sa mort. Et donc, cette puissance-là du désir de survie, du désir de vivre, de se conserver, cette puissance-là est parfaitement légitime pour Hobbes et légitime les actes de l'individu qui peuvent être mus par cette puissance-là. Alors, c'est ce qu'il appelle le droit naturel. Le droit naturel, c'est cela, le jus naturalis. Jus, c'est J-U-S. Naturalis, le droit naturel, c'est précisément cet état de fait. Alors, j'ajoute tout de suite ceci. On va le voir après, mais pour votre compréhension, j'anticipe. Hobbes ne porte donc aucun jugement sur ce droit naturel et sur cet instinct de survie, de conservation, ce conatus, ce conatus, ce désir de persévérer dans son être, de l'individu humain. Ce qui est important de préciser, c'est que pour Hobbes, on est dans une situation antérieure aux catégories du bien et du mal, du juste et de l'injuste. C'est-à-dire qu'en gros, celui qui, pour sa sécurité, tue l'autre, c'est un acte qui, dans cette situation-là, hein, j'entends, échappe à un jugement de type juste, injuste, bien ou mal. Parce que le droit naturel échappe à ces catégories-là. Pour que le juste et l'injuste, le bien et le mal, soient des catégories pertinentes, il faut qu'adviennent, on le verra après, à la place, enfin pas à la place, à côté du droit naturel, ce qu'il appelle les lois naturelles. Et c'est là toute la complexité de Hobbes qui a souvent été mal compris, parce que droit naturel, loi naturelle, d'ailleurs généralement au pluriel, il n'y en a pas qu'une, on n'a jamais bien saisi, alors qu'il le dit, la différence. Donc les lois naturelles, c'est l'état, c'est ce qui va construire l'état qui sort de l'état de nature, de l'état du droit naturel. Les lois naturelles résultent de la volonté et de l'accord des individus humains. Et c'est quand il y a des lois naturelles qu'alors les catégories juste, injuste, bien, mal deviennent pertinentes. Parce qu'elles ne sont pertinentes qu'en regard des lois naturelles, pas en soi. C'est ça qu'il faut avoir en tête, pas en soi. Et les lois naturelles, par opposition au droit naturel, qui est la pure puissance de la liberté de vivre de l'individu, le droit naturel, hein, la pure puissance de la liberté, du pouvoir de l'individu, du pouvoir vivre de l'individu, les lois naturelles introduisent des règles communes qui vont être des interdits, des contraintes, des limitations du conatus, des limitations du désir de vivre, de persévérer dans son être. C'est ça toute la gymnastique de la pensée de Hobbes, qu'on va voir se dessiner plus précisément. Alors, je poursuis. Que si quelques-uns trouvent étrange que Caton, cet homme d'une sagesse et renommée, se soit laissé de sorte prévenir à la haine. Alors, prévenir à la haine, c'est une formule, c'est marrant la traduction, parce que la traduction, elle est dans un français un peu ancien, qui tente d'être proche de l'anglais ancien de Hobbes. Et du coup, il y a des formules ou des constructions de phrases qu'on n'entend plus trop aujourd'hui. C'est en même temps beau, mais voilà. Donc, prévenir, se laisser prévenir à, ça veut dire se laisser aller à, se laisser gouverner par. Donc là, c'est se laisser aller à la haine. et que la passion est si fort imposée à sa raison qu'il est jugé équitable dans ses citoyens, ce qu'il a estimé inique dans la personne des rois. Pour moi, il y a longtemps que je suis dans cette opinion, que les plus belles vérités n'ont jamais agréé au peuple et qu'il ne saurait connaître une plus grande sagesse que la sienne, car ou il ne peut la comprendre, ou s'il en est capable, il la mesure et l'égale à son intelligence. Le peuple, là, il ne faut pas l'entendre dans le sens ultérieur du mot en français, c'est un sens politique. On ferait un anachronisme. Le peuple, là, on peut presque l'entendre par les populations. La population, c'est la collection des individus humains. Il ne faut pas, comment dirais-je, surinvestir le mot peuple. D'ailleurs, vous notez que l'édition, là, respecte une tradition typographique qui est que quand les mots désignent une espèce de concept ou de quelque chose de transcendant, il y a une capitale à l'initiale. Là, le peuple, ce n'est pas un P majuscule. Hein. Le peuple, c'est un effet de la traduction. Alors, j'avoue que je ne sais pas le mot utilisé en latin, mais là, peuple, là, il faut vraiment l'entendre au sens faible du terme et pas comme un transcendant, une catégorie politique telle qu'elle va se forger peu à peu dans la philosophie politique moderne et surtout au 18e hein, et 19e a fortiori et 20e. Pour comprendre tout ce qu'il a dit jusqu'alors et édifier une société pacifique, pacifiée, il faut avoir recours à l'exercice de la raison, c'est-à-dire il faudrait pouvoir penser à partir de l'observation des mœurs, il le dit quelque part, les mœurs, c'est-à-dire c'est les conduites naturelles des humains. Il faudrait pouvoir construire méthodologiquement cette observation comme une science. Et il prend des comparaisons avec la géométrie, avec l'astronomie, l'architecture. Il faut pouvoir se doter d'une méthode scientifique, d'observation, pour pouvoir construire, imaginer la construction d'une société pacifique. Si on s'en tient uniquement à la morale, morale issue de principes abstraits de la religion ou autre, on se casse la figure. C'est ce qui s'est passé jusqu'alors. Alors, ce qui est important à avoir en tête, c'est que pour Hobbes, une des leçons qu'il tire de la guerre civile anglaise, c'est pour ça que les religieux et les églises lui en voulaient tant, c'est que la guerre civile anglaise est due avant tout au jeu des forces religieuses qui tentaient d'imposer arbitrairement une vision morale et religieuse sur toute la société. Entre parenthèses, Hobbes est d'un grand recours pour aujourd'hui quand on voit la montée en puissance de ce que j'appellerais l'intégrisme politique. Et en particulier, c'est tout le problème de la manif pour tous. Hobbes, il est clair. C'est pour ça que ce n'est pas un réactionnaire qu'on a voulu dire. Hobbes serait clairement contre la manif pour tous. C'est contre les catholiques intégristes qui prétendent imposer leurs préceptes religieux comme loi de la société. Alors, il y a le problème de l'islam, évidemment, mais ce qui est trop facile, parce qu'au fond, c'est très compliqué l'islam, c'est que l'islam est précisément une religion, c'est peut-être parce que c'est le dernier monothéiste, qui n'a volontairement pas fait de césure entre le spirituel et le temporel, entre le politique et le religieux. C'est une religion par essence politique. C'est bien la question qui est posée par l'islam. Donc voilà, il en appelle à une espèce de science du politique au fond, de science des mœurs collectives des hommes comme nécessaire pour construire l'État. Alors, je descends un peu plus loin dans la page pour lire quelques phrases. Que si les philosophes moraux qu'il condamne, donc vous avez vu, la philosophe c'est avec un P majuscule, ça désigne toute une catégorie, tout un courant de philosophes. Que si les philosophes moraux eussent satisfait aussi heureusement à leur devoir, je ne vois pas ce que notre adresse eût pu contribuer davantage pour la félicité de cette vie. En clair, si les philosophes moraux avaient permis de construire une société de paix, ce que je dis ne servira à rien. Je n'aurais pas besoin de me casser la tête. C'est bien parce qu'ils ont échoué, sachant gré à Hobbes, de tenter quand même l'effort, surtout si on resitue les conditions de l'époque, d'arracher une pensée de la société, de l'arracher à la gangue de tous les préceptes moraux et religieux issus du Moyen-Âge. Il y a un effort qui est louable, qu'il faut reconnaître chez Hobbes. Parce que si nous connaissions avec une même certitude la raison des actions humaines, que nous savons la raison des grandeurs dans les figures. L'ambition et l'avarice qu'ont établi leur puissance sur les fausses opinions du vulgaire touchant le droit et le tort seraient désarmées et les hommes jouiraient d'une paix si constante qu'il ne semble pas qu'ils dussent jamais se quereller, si ce n'est pour un peu de place à cause de leur trop grande multiplication. Alors c'est très étonnant parce qu'il a l'intuition de ce qui devient un discours dominant et qui est néanmoins très dangereux, à mon avis, qui est que tous nos malheurs et la menace principale de la Terre qui pèse sur la planète, c'est la surpopulation. Il anticipe ce problème et qui est aujourd'hui un discours, notamment chez les écologistes, de plus en plus fréquent et qui est un discours dont je voudrais simplement alerter au passage sur le fait qu'il est potentiellement très dangereux. Parce que si on commence à dire qu'on est de trop et que les problèmes viennent de là, immédiatement se déduit la question qui en supprime, qui est en trop. On voit que Hobbes est le premier à opérer ce geste d'opposer les dangers et les errances de la philosophie morale d'une société basée sur ça, par opposition à ce qu'il appelle de ses vœux, c'est-à-dire une construction scientifique. Il est ni plus ni moins l'ancêtre de gens comme Marx, de ce point de vue-là, Fourier, Proudhon, Saint-Simon, ces penseurs du socialisme dit utopique du 19e. Pourquoi Marx revendique un socialisme scientifique? Ça veut dire quoi chez Marx, un socialisme scientifique? Ça veut dire construire une société selon des principes d'observation rigoureusement établis scientifiquement par une science. Fourier, Proudhon, Saint-Simon, considérant, prétendent la même chose. C'est l'autre qui traitait chacun d'utopiste, mais chacun se revendiquait scientifique. Hobbes, Marx lui-même, après je ne parle pas du marxisme, Marx, Fourier, Proudhon, Saint-Simon, réellement se sont attachés à fonder une science de la société, ce qu'on a pu appeler par la suite une sociologie, une science sociale. Je crois que Hobbes dit le monde, c'est comme un livre, c'est-à-dire qu'on peut établir la grammaire du monde, on peut établir la syntaxe du monde, que si les philosophes moraux, je reprends, eussent satisfait aussi heureusement à leur devoir, je ne vois pas ce que notre adresse eût pu contribuer davantage pour la félicité de cette vie, parce que si nous connaissions avec une même certitude la raison des actions humaines, que nous savons la raison des grandeurs dans les figures là en l'occurrence c'est la géométrie, l'ambition et l'avarice qui ont établi leur puissance sur les fausses opinions du vulgaire, donc l'ambition et l'avarice des philosophies morales, sur les fausses opinions du vulgaire touchant le droit et le tort, seraient désarmées et les hommes jouiraient d'une paix si constante qu'il ne semble pas qu'ils dussent jamais se quereller, si ce n'est pour un peu de place à cause de leur trop grande multiplication. Voilà, très clairement, il est nécessaire de fonder une science de la société si on ne veut pas tomber dans les mêmes impasses que ce qu'a induit les préceptes de la philosophie morale ou religieuse. Et si nous voyons maintenant que l'on se fait une guerre continuelle avec les épées, avec les plumes, que l'on a davantage de connaissances du droit et des lois naturelles qu'au temps passé, donc il montre qu'on n'a pas progressé en fait. Malgré des siècles et des siècles de préceptes moraux et religieux, on n'a pas progressé vu qu'on se fait la guerre continuellement. Exemple, la guerre civile anglaise, quoi. C'est-à-dire, regardez l'état de l'Angleterre, est-ce qu'on a progressé depuis les Grecs anciens? Voilà ce qu'il dit. Ou les Romains, dont il a pris l'exemple au début. Que chaque parti défend son droit par les avis des philosophes, que les uns louent, donc les philosophes moraux en l'occurrence, que les uns louent et les autres blâment une même chose, que celui-là approuve en un temps et ce qu'il condamne en un autre. Tout ça, ce qu'il veut dire, c'est que ça ne produit que des opinions subjectif, arbitraire, et que les opinions, par définition, c'est fluctuant, mouvant. Donc il faut passer de l'opinion à une raison, une connaissance rationnelle, scientifique. C'est précisément ce qui fonde la science. Et c'est ce qui fondera au XIXe siècle ce qu'on a appelé les sciences humaines. Donc en ce sens, Hobbes est le précurseur des sciences humaines et de toute la philosophie politique qui se veut fondée sur la science. Ce qu'on appelle aujourd'hui science politique. Et ce n'est pas hasard si les écoles supérieures les plus prestigieuses aujourd'hui en France, par exemple, c'est Sciences Po. Voilà, on a la traduction directe de cela. Et qu'il considère différemment ses actions à la personne d'autrui de ce qu'il les estime en la sienne. Ce sont des témoignages manifestes que tout ce que les philosophes moraux ont écrit jusqu'à présent de la science de la vérité n'a servi à rien. et que s'ils ont trouvé de l'agrément, ça n'a pas été par des nouvelles lumières qui aient éclairé les esprits. Le terme lumière, c'est quand même étonnant. C'est-à-dire que là aussi, on peut dire qu'il est, par certains côtés, le précurseur de Rousseau, clairement, et des lumières, ce qu'on a appelé les lumières au XVIIIe siècle. Mais par des discours éloquents, pleins de mouvements pathétiques avec lesquels ils ont confirmé des opinions qui avaient été déjà reçues sans être bien examinées. Entre parenthèses, vous avez vu ce grand historien médiéviste vient de mourir, qui est Jacques Le Goff. Et Jacques Le Goff, il défendait une thèse qui n'est pas celle de Michel Foucault, par exemple, mais qui peut se défendre, la thèse du long Moyen-Âge, d'un Moyen-Âge de longue durée. C'est-à-dire que pour Le Goff, le Moyen-Âge a continué jusqu'aux Lumières. Donc, de ce point de vue-là, ça l'amène à dévaluer l'importance de la Renaissance et à considérer que l'élan de la chrétienté médiévale va en réalité se poursuivre jusqu'au XVIIIe siècle. Et donc, c'est un point de vue qui est intéressant à la lumière des Lumières de Hobbes. Tellement qu'il est arrivé à cette partie de la philosophie, le même qu'au grand chemin, qui sont battus d'une foule de monde, où les uns avancent, les autres reculent, quelques-uns se promènent et quelques autres se battent, mais personne n'y sème. De quoi je pense que l'on peut donner une seule raison, qui est, je vais sauter là parce que c'est un peu trop long. Donc, c'est pourquoi, j'ai sauté quelques lignes, où il reparle de la science. C'est pourquoi, comme je m'appliquais à la recherche de la justice naturelle, le nom de cette vertu qui signifie une volonté constante de rendre à un chacun ce qui lui appartient de droit, m'a pris qu'il fallait savoir auparavant pourquoi nous disions qu'une chose était plutôt à nous qu'à un autre, et après m'être assuré que ce n'était pas la nature, mais les hommes qui l'avaient déterminée de la sorte, qu'elles se sont distribuées ce qu'elle leur a donné. Je tombais dans cette autre question, pourquoi et quelle nécessité les avait contraints, puisque toute chose était à chacun, de s'en approprier quelques-unes en particulier, et je reconnus que la guerre naissait de cette communauté, et que nécessairement cette contestation, pour en obtenir l'usage avec la force, devait être suivie de plusieurs calamités, à quoi tout le monde a naturellement l'aversion. Alors, deux points importants dans ce passage. Le premier, c'est là aussi une clarification de la notion décidément complexe et souvent mal interprétée de droit naturel. Le droit naturel n'est pas la nature, la loi de la nature. C'est une hypothèse méthodologique qui est comment sont les hommes en collectivité tant qu'on n'a pas instauré la puissance commune. Mais en aucun cas il y a un état de nature, et ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas un état de nature que l'on s'approprie des choses. Ce qu'il dit là, c'est ce que va reprendre Rousseau plus tard, la propriété n'est pas une loi de la nature. Et donc ça fait écho à Rousseau qui dit « Le premier qui a dit ceci est à moi est un voleur ». Pour Rousseau, c'est le début du contrat social, la propriété c'est le vol. Donc Rousseau est dans la continuité de Hobbes. L'appropriation, c'est-à-dire la propriété au fond, chose de bien, ce n'est pas la nature qui veut ça. C'est que c'est une volonté des hommes. C'est une volonté des hommes. Donc vous voyez, le droit naturel, il faut l'entendre dans ce sens précis qui est que c'est une hypothèse de méthode et qui n'a rien à voir avec, en l'occurrence, une observation d'un état de nature tel qu'il obéirait à une loi de la nature, que la nature serait ainsi. Par contre, ce qu'il ajoute, c'est que la guerre naît de cela. Donc la guerre naît de cette convoitise des individus qui est que chacun cherche à capter le bien commun. Donc vous voyez que sur ces considérations-là, Hobbes s'éloigne là encore très nettement d'un discours philosophique de droite réactionnaire. Après, si on passe du plan du droit naturel au plan des lois naturelles, c'est-à-dire la construction sociale, c'est là que Hobbes pointe qu'il y a un problème et que Rousseau encore plus. C'est-à-dire que c'est là qu'intervient le juste, l'injuste, le bien, le mal. Et le bien commun est une expression qui ne vaut que si on se situe après le droit naturel, que si on se situe sur le plan des lois naturelles, c'est-à-dire de la construction de la société, qui est pour Hobbes un artifice. Je termine juste rapidement le passage, et de là je tirerai deux principes pour ce qui regarde la nature des hommes, qui ne sauraient être contredits. Premier principe, l'un de leurs convoitise naturelle qui porte un chacun d'eux à désirer d'avoir en propre l'usage de toutes choses que la nature leur a données en commun. C'est ce que je viens de dire par rapport à l'appropriation. Deux, et l'autre, de leur raison aussi naturelle qui fait qu'ils s'efforcent, autant qu'il leur est possible d'éviter la mort violente, comme le plus grand de tous les maux de la nature. Donc le second principe, c'est l'instinct de survie, de conservation, c'est l'aspiration à la sécurité. C'est de ces principes que je pense avoir démontré dans ce petit ouvrage, par une connexion évidente, la nécessité de garder les pactes et de ne point violer ce que la loi que l'on a promise. Et ensuite, les éléments de la vertu, donc c'est le pacte, mais ça on va le voir largement après, qui fonde le passage du droit naturel aux lois naturelles. Les lois naturelles résultent d'un pacte, autrement dit d'un contrat, que l'on ne doit point violer. Et ensuite, les éléments de la vertu morale et les offices de la vie civile. Ce que j'y ai ajouté du royaume de Dieu n'est à un autre dessein, pour savoir que les choses qu'il nous a dictées par la nature ne répugnent point à celles qu'il nous a ordonnées dans les saintes écritures. Donc là, il montre simplement que ce qu'il construit est un plus, un supplément, qui ne vient pas parjurer, qui ne vient pas nier l'ordre divin. C'est important, et c'est aussi une réponse à toutes les attaques qu'il subit des églises.